Fidèles téléspectateurs et auditeurs des programmes du Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum du Studio Kalangu de ce soir. L'importance de l'enseignement des contes aux enfants à l'école, c'est le thème de ce forum qui, en effet, n'a jamais été émerveillé par un conte, narration généralement brève, relatant des faits imaginaires. Le conte revêt jadis d'une grande importance dans les sociétés africaines, à la différence du roman ou de la nouvelle qui sont beaucoup plus proches du monde du réel. Le conte présente un monde où règne l'invraisemblable et le beau à travers des faits ou des aventures imaginaires qui donnent envie d'être écoutés jusqu'à la fin et pas sans en tirer des merveilleuses leçons de morale. En clair, les contes sont très importants quand on veut distraire, mais aussi édifier dans une force émotionnelle puissante qui apporte des réponses à nos multiples et divers questionnements sur notre monde plein de mystères et la vie en société. Dans la première partie de ce forum, nous verrons tout d'abord ce que c'est les contes et les valeurs qu'ils transmettent à la société, avant de voir dans la deuxième partie comment promouvoir l'enseignement des contes de nos jours au Niger. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio ce soir M. Adamu Idé. Il est écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier est le roman Camarade. Je rappelle que vous êtes également l'auteur du célèbre ouvrage, roman également, Camisole de paille. Vous êtes par ailleurs le président de la Société des gens de lettres, une association donc qui regroupe des littéraires nigériens. Président Adamu Idé, bonsoir.
Bonsoir.
Notre deuxième invité est la conteuse Aïcha Lamine Fofana. Bonsoir Aïcha.
Bonsoir.
Et le troisième, c'est M. Soumane Chamsou. Il est enseignant de français et de lettres au lycée. M. Soumane Chamsou, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci à vous tous donc d'avoir répondu présent à l'invitation de Studio Kalangu à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. Pour commencer, M. Soumane Chamsou, enseignant de la langue française, comment définit-on le conte et quelles sont ses fonctions?
Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir organisé ce forum. Et pour revenir à votre question, le conte a évolué dans ses différentes définitions. Du latin computare, qui veut dire tout simplement énumérer, le conte est arrivé à un moment pour être défini comme l'énumération des faits imaginaires ou des faits inventés. Ensuite, on a compris que le conte ne s'arrête pas seulement à l'énumération, puisque énumérer et raconter n'est pas la même chose. On est arrivé à considérer le conte comme raconter des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on peut considérer le conte comme le récit des événements ou bien des faits imaginaires où le merveilleux et l'extraordinaire se mêlent au réel dans un but précis de divertissement. Certains auteurs ont essayé de donner des définitions, chacun à sa manière. Quand on prend l'œuvre de Amadou Ampateba Kaidara, où il a considéré le conte comme un personnage, parce qu'il a personnifié le conte qui parle. Et le conte se définit lui-même avec des caractéristiques. Et il dit « Je suis instructif, je suis utile, serviable pour différentes catégories de personnes. Pour les bambins, je suis une histoire, une simple histoire. Pour certaines catégories d'âge, je suis là pour moraliser. Pour d'autres, je suis là pour sanctionner. »
Donc, le conte sert à divertir, mais également à instruire. Nous avons aussi l'aspect moralisateur du conte. Merci à vous pour cet éclairage. Monsieur Adamu Idé, écrivain, pourquoi est-il important de raconter des contes aux enfants de nos jours?
Merci, Michel. Merci à tous. Vraiment, j'aimerais me joindre à mon prédécesseur pour vous remercier de cette initiative qui est extrêmement importante dans la mesure où elle remet à l'ordre du jour une discipline qui a disparu et dont l'importance n'est pas très bien perçue dans notre société aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous, quand on était enfants, c'était la discipline majeure d'éducation des enfants, le conte.
Même ceux qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école.
Il ne s'agit pas, mais c'est une école.
C'est une autre école.
Le conte est une école. En raccourci, il n'y a pas à apprendre A, B, C, D, non. Il y a à apprendre comment vivre bien en société. Et c'est ça l'effet du conte. C'est une éducation orale, mais pleine d'enseignements, parce que l'enfant, en lui apprenant le merveilleux, en lui apprenant à vivre avec des êtres qui sont fabriqués dans l'esprit du conteur, il apprend à vivre avec ce merveilleux-là autour de lui, les animaux, la brousse. Donc il fait attention. Je ne suis pas seul. Il ne faut pas oublier cet aspect important de notre civilisation. L'Africain est un homme qui a toujours composé avec l'environnement.
Bien sûr.
Donc l'environnement contribue à l'éducation de l'enfant. Par exemple, lorsqu'on veut amener un enfant à éviter des mauvaises actions, toujours dans le conte, il y a une histoire qui rappelle que le dénouement est mauvais. Celui qui a fait une faute est puni.
Par exemple, le vol. Voilà, donc, telle chose peut t'arriver.
Et ça va rester dans l'esprit de l'enfant.
Bien sûr.
Et plus tard dans la vie, ce sont des comportements qu'il va adopter. Et on espère pour le mieux de la société. C'est ça qui est important.
Merci à vous, M. Adamou Idé. Nous allons également poser la question Aïcha Fofana, en tant que conteuse, pensez-vous que la société nigérienne accorde encore de nos jours de l'intérêt aux contes?
Si, ils accordent un grand intérêt. Ils tiennent aux contes parce que le conte est toujours là et nous on y tient parce qu'on ne tient pas à ce que ça disparaisse. Que ça disparaisse de la capitale Niamey et de toutes les régions. Parce que si on part voir les Hausa, le conte est toujours là. Le conte est toujours là, le conte existe.
Dans les zones reculées, dans les villages, par exemple.
Oui, dans les villages, à Maradi, en ville même. Tu peux venir dans une maison et trouver 4-5 conteuses. Moi, à un moment, j'étais à Maradi, j'étais partie pour une semaine, mais j'ai recueilli jusqu'à 45 contes avec des conteuses. Parce que quand je suis rentrée, c'était pour les saluer et puis leur dire que si elles ont des contes, à chaque fois que je vais vers une, elle me donne ses comptes et au fur et à mesure qu'elle me donne un ou bien deux comptes, elle ne finit même pas que l'autre soulève le bras pour me dire que tu viens vers moi. Voilà. Elle est assise sur sa natte, elle m'attend. Et ça m'a permis de faire le tour de la maison. Je partais les rendre visite surtout la nuit. Et ça m'a beaucoup plu. Eux-mêmes, elles étaient tellement contentes, j'étais tellement émue de ce qu'elles m'ont donné comme œuvre. Ça a fait que par après, je les ai envoyé des cadeaux.
C'est vrai que quand on parle des contes, on voit clairement que dans l'Afrique traditionnelle, ça relève de la tradition orale. Parce que c'était naturellement un genre qui était développé dans des milieux où les gens n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ces dames, comment elles font?
Bon, c'est des femmes analphabètes. Elles n'ont pas étudié. Mais si c'est le conte, vraiment, elles ont ça dans la tête. Elles ont ça dans la tête, vraiment. Parce qu'elles peuvent te prendre 2 à 3 contes en même temps, voire 4, une seule personne. Donc, en tout cas, de ce côté-là, elles sont très bien.
Et quelles sont les valeurs que ces contes transmettent? Donnez-nous des exemples de contes, par exemple, et les leçons de morale qu'on peut en tirer.
Les leçons de morale, c'est que des fois, il y a des enfants qui désobéissent aux parents. Parce que j'ai un conte qui parle d'un enfant qui a désobéi à sa maman. Sa maman lui a dit d'aller chercher du bois pour la cuisson. L'enfant a traîné. Il était au début dans le groupe des garçons, il jouait. Et après, il a vu un groupe de jeunes filles. Il est parti se mettre dans ce groupe pour jouer. Il se disait que c'est des filles. Il s'est dit que c'est des humaines, c'est des filles humaines. Mais par après, les filles-là se sont transformées. Dia, c'est des hyènes. Et c'était beaucoup d'hyènes. Elles se sont transformées en hyènes et elles se sont mises à
lui faire du mal.
À lui faire.
Ils c'est ça le surnaturel
oui,
ici.
Ils l'ont suivi vraiment. Le petit s'appelle Chindo. Je me rappelle bien de mon conte là.
Ça veut dire que la leçon de morale ici, c'est qu'il faut toujours obéir aux parents.
Oui, parce
en cas de désobéissance, il peut y avoir des sanctions.
Oui, c'est ça. Parce que la maman lui a dit de ne pas tarder. Et lui aussi, tellement qu'il aime jouer. Quand il a fini avec ses amis du village, il est rentré en brousse. Et c'est de là qu'il a trouvé les jeunes filles là.
D'autres exemples qui donnent toujours des leçons de morale?
On a le mouton et puis la chèvre. Parce qu'avant, le mouton avait les cornes et les cornes étaient debout. Le mouton, les cornes étaient debout. Maintenant, le mouton et puis la chèvre étaient des amis inséparables. Ils s'entendaient très bien. Maintenant, pour aller puiser l'eau au marigot, c'est à tour de rôle qu'ils le font. Bon, un jour, c'était le mouton qui devrait aller au marigot puiser de l'eau pour envoyer à la maison. Mais le mouton n'a pas honoré. Et ça a énervé la chèvre. Les deux ne se sont pas entendus.
Et les ça a fini comment?
Ça a mal fini parce qu'ils se sont battus. Ils ont mis une grande distance entre eux et chacun chante pour taper l'autre. Et puis bon, la chanson c'est « Hindo klelele kleku klele » et il vient, il tape la chèvre. En tout cas, les deux se sont battus et c'est en même temps en chantant quoi. Chacun avait sa chanson à faire et c'est dans ça que le mouton s'est retrouvé les cornes tordues. Ses cornes étaient debout.
La leçon ici c'est quoi?
La leçon de morale est que en amitié, on doit être surtout solidaire et puis droit.
C'est vrai qu'il faut rappeler que dans un passé lointain, et même naguère, les contes étaient vraiment écoutés, surtout les nuits. On était très attentifs à comprendre ce que le conte enseignait. Aujourd'hui, dans les zones que vous avez visitées, est-ce qu'on voit ces femmes faire ce travail? Rencontres nocturnes où on...
Si, elles le font. Elles le font parce que vraiment, elles le font. Quand c'est le temps de la fraîcheur, elles mettent un feu au milieu et les enfants viennent s'asseoir en cercle ainsi que tout le monde. Et puis, on compte. Ça continue, même à l'extérieur. C'est ce qu'on voit. Nous-mêmes, quand on parle lors des festivals, parce que les festivals, il y a des festivals qui se font au temps de fraîcheur et en décembre comme ça. Quand on parle, on a toujours compté autour d'un feu. Tout le monde, tout un quartier est réuni autour d'un feu. C'est comme ça.
Merci à vous. Monsieur Souman Chamsou, enseignant de français et de lettres, comment savoir qu'un texte est un conte et qu'est-ce qui le différencie d'une fable, par exemple?
La caractéristique de la fable, c'est que c'est un conte en vers, très court.
Il y a un aspect poétique. On voit d'ailleurs les fables de La Fontaine, la cigale et la fourmi, le laboureur et ses enfants, qu'on récite à l'école comme des poèmes.
Bien sûr. Ça veut dire que tout conte, il est caractérisé par une structure. La structure d'une citation initiale, il y a un élément perturbateur qui va venir et... Sa résolution demande des péripéties. On va à la citation finale, le dénouement.
Ça veut dire pour le conte, il y a un chemin qu'il faut respecter. Alors que les fables, il y a une versification.
Pour la fable, certes, il y a la leçon de morale, c'est-à-dire une citation finale comme dans le conte. La fable situe souvent, comme c'est un poème, au début, la morale va être au début ou bien à la fin. Alors que le conte, on fait le cheminement. Souvent, on ne dit même pas la leçon de morale. C'est à la fin que l'auditeur comprend qu'ici, il y a un comportement qui est récompensé et un autre comportement est puni. Donc, la différence est nette. Le conte, il se distingue aussi de la légende.
C'est vrai, il y a aussi la légende. Par exemple, au Musée national, il y a une grosse pierre là. Et la légende dit que, voilà, c'est une femme, on était venu lui demander de la boule, et elle avait été gourmande.
Elle a caché à ses...
Et elle aurait caché
la boule
à ses invités. Sa boule, la grosse boule qu'elle avait là, s'était transformée en pierre.
Donc la légende, on part toujours... pour expliquer un fait réel, c'est-à-dire on crée un conte autour d'un événement réel pour le justifier. Pourquoi y a-t-il un tel événement ou bien un tel objet.
Il y a aussi voilà, les épopées.
Il y a les épopées. Mmh. Les épopées sont là pour magnifier, pour glorifier la bravoure d'un peuple ou bien d'un seul personnage. Mmh. Donc, quand vous regardez les gestes racontés par Diado, on peut attrait à l'épopée qu'à la légende. Mmh. C'est-à-dire, on ne cherche pas à expliquer pourquoi un événement est là, mais on cherche à glorifier un personnage. Chaque épopée de Diado prend un personnage, un guerrier, et il lui donne des exploits surnaturels. C'est-à-dire, là où se rejoignent les deux, c'est-à-dire le conte et l'épopée, c'est que le surnaturel et le merveilleux, comme nous l'avons expliqué dans le conte, existent aussi dans l'épopée. Mmh. Mais la différence, c'est que l'être, dans l'épopée, l'être, il est réel. Quand on parle de Sundiata, Sundiata est réel.
Il y a même l'épopée faite à l'honneur de Sundiata.
Issa Corombe, on a fait des épopées. Mmh. Il y avait une de nos enseignantes à l'université, Fatouma. Mmh. Madame Fatou Munkaila,
qui a fait une épopée pour faire connaître Issa Corombe.
Oui, Issa Corombe. Donc, il y a des gens qui ont écrit, même au Niger, pour faire des épopées, des légendes, des contes. Mmh. Donc, les contes sont différents de la légende,
des fables et même des épopées.
Mmh. Donc, la spécificité du conte, c'est qu'il est fait avec des êtres toujours imaginaires. Mais ces êtres-là, en réalité, symbolisent des êtres réels. Quand on veut parler, par exemple, du roi, on prend le lion. Pour parler d'un homme rusé, on prend le lièvre.
Le lièvre.
Pour parler d'un homme sot, on prend l'hyène.
Il y a même des contes, on dit « Corne de Tobaï ».
Oui.
On sait déjà que c'est pour montrer quelqu'un qui est intelligent,
intelligent et
un autre qui ne l'est pas.
Voilà.
Merci à vous, Monsieur Soumana Chamsou, Monsieur Adam Oudé, écrivain. Quelle place occupent les contes dans la littérature nigérienne aujourd'hui?
Nous avons plusieurs auteurs qui sont inscrits dans ce courant littéraire, parmi lesquels évidemment
Boubou Hama
avec André Clair, il faut l'ajouter, parce que ce sont les deux qui ont vraiment produit beaucoup de contes dans notre littérature. Mais il y a également Kelitigi Mariko.
Qui a également travaillé avec Boubou Hama.
Oui, il a travaillé avec Boubou Hama. Et il y a, je ne sais pas si je peux le dire, Amad Diallo, à l'ombre des anciens. Donc il y a plusieurs auteurs comme ça qui ont écrit. Et ce serait bon de les remettre au bout du jour, quoi, si vous voulez. Absolument, il faudrait trouver un créneau, peut-être au niveau des enseignants de français, pour insérer des séquences contes à l'école, dans la mesure où le conte a disparu du cursus normal de l'école. Et c'est là où il faut en venir justement. C'est d'essayer de remettre cette discipline dans les matières de l'école. Dans les matières, il faut qu'on trouve un créneau dans l'emploi du temps pour faire des contes. Vraiment, mettre cela dans un programme scolaire pour que les enfants puissent assister à une séance de contes qui sera évaluer comme les autres matières. Vous voyez, quand on commence à faire le compte chez nous, on dit « Aïgande, Aïgande ».
Aïgande,
Aïgande. Les enfants répondent « Aïname ». C'est quoi « Name » ?« Name », c'est la culture. C'est la culture. Donc, ils s'approprient
cette tradition.
Culture. C'est cela. Donc, le compte n'est pas quelque chose d'inventé. D'ailleurs, c'est le substrat même de notre culture. C'est pourquoi il faut l'enseigner dès les bas âges à l'école. Et j'insiste bien à l'école. Si M. Chamsoum dit qu'il y a des programmes, eh bien, il faut faire en sorte que des conteuses, des enseignants conteuses, viennent faire leur programme comme celui de français ou de maths. C'est comme ça seulement qu'on peut essayer de développer le conte à l'école.
Monsieur Soumane Chamsou, changement positif l'enseignement des contes peut apporter aux enfants dans leur éducation aujourd'hui?
L'enseignement des contes va changer radicalement le système éducatif. Je le dis radicalement.
Nous avons un
problème sérieux de mentalité. Nous sommes en train d'enseigner des programmes français qui ne sont pas adaptés à notre culture. L'enseignement du conte va permettre à ce que l'enfant soit situé d'abord, contextualisé, je veux dire, qu'il sache où il est né, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut devenir, qu'est-ce qu'il peut apporter comme changement dans sa culture. On ne peut pas venir innover une culture, comme on a parlé de l'AIE, ministère de rénovation de la culture.
Renaissance culturelle.
Renaissance culturelle. Mmh. Oui, la renaissance culturelle, lorsqu'elle vient d'ailleurs, elle ne peut pas avoir un impact réel. Mmh. L'impact, pour qu'on le trouve, cet impact-là, il faut commencer à la base. C'est au peuple de créer une renaissance culturelle. Comment ? En comprenant, en enseignant, en analysant qu'est-ce qui fonde sa société. Et c'est le conte. Le conte, c'était la première école de nos sociétés africaines avant l'école blanche.
Elle était de tradition orale, c'est-à-dire elle peut être pratiquée sans jamais aller à l'école.
Ça veut dire que nos sociétés ont pu éduquer leurs enfants à partir du conte. Toutes les différentes valeurs qu'on veut transmettre ont été transmises à partir du conte. Donc, il n'y avait pas l'école. Mais les gens n'étaient pas idiots.
Bien sûr.
Les gens connaissaient leur territoire. Les gens savent leur culture. Donc, introduire l'enseignement du conte dans le programme, c'est bien, mais à bas âge et d'une autre manière. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous le faisons, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, en seconde, on fait la structure du conte, on enseigne des contes en classe, on permet souvent même aux enfants de produire, d'aller faire des recherches sur les contes en langue, d'autres font en Hausa, d'autres en Peul, d'autres en Kanuri, d'autres contes en Germain. Donc, moi, j'ai l'habitude de le faire. Ils apportent et ils transcrivent en français eux-mêmes leurs contes. Ils viennent, ils comptent devant leurs camarades. Donc, mais ce n'est pas suffisant.
Chacun fait un conte de son village.
Un conte de son village en sa langue.
Après, c'est des exercices que vous avez l'habitude de donner à vos élèves.
Régulièrement, chaque année en seconde, on le fait. Mais cela n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, pourquoi ? Parce que ça, c'est l'enfant le fait pour avoir une note. Il voit que ce monsieur me demande de le faire pour que je sois noté et il le fait. Mais si c'était à la base, il sait pourquoi il va le faire, qu'est-ce qui va le motiver à le faire, il va aller faire des recherches eux-mêmes. Pourquoi le Boubou Hama avait fait ? C'est parce qu'à l'école William Ponty, c'était...
De Dakar.
Voilà, c'était les exercices de vacances. On obligeait les élèves à aller récolter les traditions de leur peuple. Et tout est parti de là. Ils ont pu faire. Les Cheikh Anta Diop ont fait l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas pour rien. Et l'école ne devait pas être... comment dirais-je ? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire de l'école blanche. On est en train d'enseigner la culture blanche et nous voulons que ça soit adopté à l'Afrique, au continent noir, à l'esprit noir. C'est un peu difficile.
Qui a d'autres réalités.
Voilà, qui a d'autres réalités.
Merci à vous, Madame Fofana, Lamine, Aïcha. C'est de vous demander les contes. On a parlé du beau. Justement, je vous vois avec un instrument. C'est pour compter, c'est ça?
Oui, c'est pour compter.
Votre zolo traditionnel?
Oui.
Comment vous faites alors quand vous voulez compter?
Je joue avec, si j'ai une chanson de conte, je le fais avec ça et ça accompagne en même temps la chanson. Quoi.
En Zarma par exemple, ou en Hausa?
Oui, en Zarma, j'ai un conte qui parle d'un vieux qui vit avec sa femme. Sa femme a une grossesse avancée. Bon, maintenant, comme c'est elle qui partait toujours en brousse, couper le bois pour la cuisson. Le mari a dit, comme il est un peu solide aussi, mais il n'a pas pris trop de l'âge, mais il est vieux quand même. Donc, il dit à la femme de rester. Lui-même, il ira chercher le bois. Et le jour où il était venu, bon, il est parti en brousse, tout fatigué. Et c'est dans ça qu'il est arrivé en pleine brousse. Il a coupé les bois par-ci, par-là. Et il a aperçu un grand baobab. Il s'est mis sous le grand baobab pour déposer le bois. Il en a fait un fagot, il voulait mettre ça sur sa tête. Dia, le grand baobab, là, c'était la maison d'un génie. Et ce génie, c'est un redoutable génie qui est connu par toute la brousse. Il s'appelle Franfanta.
Fanfanta.
Oui. Mmh. Le moment où le vieux voulait soulever le bois, c'est comme s'il a fait un vent, quoi. Mmh. Maintenant, le vent, là, ça a intoxiqué le génie qui est dans l'arbre, Fanfanta. Fanfanta s'est dit qu'il est en train de m'intoxiquer parce qu'il a pété, quoi. Je ne voulais pas dire le mot. Donc, ça faisait pout, pout, pout. Donc, lui, il dit...
C'est le vieux qui a fait ça.
C'est le vieux. Il dit, qui est en train de m'intoxiquer. Le vieux dit, non. J'ai déjà un fagot sous la main, je voulais le soulever et je cherche quelqu'un qui va m'aider. Il dit, mais moi, je sortirai de cet arbre pour t'aider. Mmh. Mais en récompense, qu'est-ce que tu me donneras? Et le vieux lui répond, j'ai ma femme qui est en grossesse avancée. Si elle accouche d'une fille, elle devient ta femme. Si c'est un garçon, il devient ton ami. Mmh. Et c'est là, Franfanta est sorti de l'arbre, mais ça faisait peur. C'était du fou. Mmh. Franfanta est géant, il est noir, les habits même qu'il portait, tout était noir. Mmh. Même pour voir sa tête, c'est un problème. Et le vieux a soulevé sa tête, il cherchait même à le voir, il dit au vieux, n'aie pas peur, c'est ton fagot, je vais le mettre sur la tête.
Donc finalement, le génie a aidé le vieux.
Oui, si ta femme accouche d'un garçon, tu lui donnes le nom de Fadé. Si c'est une fille, tu lui donnes le nom de Fana. Mm-hmm. Si c'est une fille.
Et là, finalement,
et finalement c'était un garçon, Fadé.
Oui.
Et maintenant que le vieux est reparti, il dit à sa femme que ah, si tu accouches, que ça soit un garçon ou une fille, si tu accouches d'une fille ou un garçon, ne la laisse jamais aller en brousse,
seul,
au pâtirage, mm-hmm, comme c'est un peul d'otis, mm-hmm, c'est mm-hmm un non-peul. Mm-hmm. Maintenant, tu interdis à mon fils d'aller, ou bien ma fille, d'aller au pâtirage. Mm-hmm. Sa femme, elle a empêché à ce que son fils se rende en brousse, mais les amis venaient toujours le taquiner. Fadé, nous, on a l'habitude d'aller en brousse, mm-hmm, mais qu'est-ce que toi tu fais? L'enfant d'un berger, tu parles un enfant en tant que ton père est berger.
Ça veut dire qu'en Afrique, nous avons des secrets comme ça.
Oui, on a des secrets.
Et l'enseignement ici, c'est quoi?
L'enseignement ici est que Fadé, mm-hmm, comme ses amis venaient toujours lui dire que ah, nous, on est toujours au pâtirage, mais toi, non. Mm-hmm. Un beau matin, Fadé est parti. Mais mm-hmm, avant d'y aller, il y avait un liquide dans une bouteille qui était derrière le canari. Mm-hmm. Fadé a pris ça, il l'a attaché à sa hanche, ainsi qu'un épée, mm-hmm, il les a bien attachés, il a pris le troupeau pour se rendre en brousse pendant que ses parents dormaient. Mm-hmm. Maintenant, arrivé en brousse, il y a Franfanta qui sent sa présence, qui lui dit « Fadé, Fadé, baba nono, alamayan kurka, baba nono, siriyan kurka, baba nono, dateyan kurka, baba nono. » Maintenant, Fadé lui dit que « Hey, qui tu es là? Je mérite te voir. Que tu sois humain ou bien génie, mm-hmm, sors de là où tu es. J'entends ta voix, mais je ne te vois pas. Mm-hmm. » Et c'est ainsi que Franfanta est sorti. Franfanta s'est placé devant lui. Et là, il dit à Franfanta, « Il y a déjà ton père qui t'a donné, qui t'a promis à moi, quoi, mm-hmm, qui t'a donné en promesse à moi, mm-hmm, en tant qu'un ami. Si tu veux bien devenir mon ami, on sera des amis. » Et Fadé l'a repoussé. Il dit, Niet, il mm-hmm dit, moi, je suis humain. Je ne peux jamais lier amitié avec un génie. Mm-hmm. Du fait qu'on n'a pas les mêmes environnements, toi, mm-hmm, tu vis en brousse. Mm-hmm. Tu manges les fruits de la brousse.
Et moi, finalement, ça s'est terminé comment?
On n'est pas les mêmes. Mm-hmm. Par un combat chaud. Ça a chauffé, les deux se sont tapés. Broum, baram, ils le font que se cogner. Et lors du combat, mm-hmm, Franfanta était en train de s'échanger. Mm-hmm. Franfanta, il était en train de se transformer. Il se transforme en un lion, mm-hmm, en un serpent, en une panthère. Tout ce qui fait peur, mm-hmm, sur le monde entier. Mm-hmm. Franfanta se transforme ainsi pour Fadé.
Mais qu'est-ce qui a fait que le garçon a pu vaincre et triompher ainsi à la fin?
À la fin, il y avait un oiseau qui volait dans le ciel et c'est l'oiseau-là qui lui dit, Fadé, prends la bouteille qui est à ta hanche-là et verse le liquide sur Franfanta. Mm-hmm. Et c'est ce qui s'est passé. Fadé a écouté l'oiseau, il a versé, mm-hmm, le liquide, mm-hmm, sur le visage de Franfanta. Mm-hmm. Et c'est là Franfanta a commencé à crier, mm-hmm. Ouais, je vois pas, je suis.
Et l'oiseau là qui lui a donné ce secret, quel lien l'oiseau là a avec ce jeune homme?
Fadé. L'oiseau a un lien surtout avec la bouteille de liquide.
La bouteille que
oui. L'oiseau, le jeune homme avait. L'oiseau, moi, je me dis que c'est un génie protecteur, mm-hmm. de leur famille.
De leur famille.
Oui. Mm-hmm. Et ce les génie, c'est un génie qui a toujours protégé la famille et tous ceux qui viennent comme descendants. Il veille sur
ça veut dire que s'il faut résumer, le jeune homme avait un génie protecteur,
oui.
qui semble être plus important.
Qu'il ne
que...
sait pas, il n'est pas au courant de ça.
Il n'était pas au courant de ça.
Ça, oui. Seulement il a obéi. Mm-hmm. Mais après, arrivé à la maison, sa maman lui a fait comprendre que c'est le génie protecteur.
Merci à vous. Alors, quelle lecture en faites-vous en fait à Adam Ouidé?
Nous sommes désarticulés culturellement. Dans la mesure où on a justement abandonné ces chemins-là. Mm-hmm. C'est-à-dire l'école que nous avons pratiquée, nous, et dans laquelle nous mettons encore nos enfants, a fait une coupure nette entre nos valeurs culturelles, mm-hmm. et des valeurs culturelles importées. Mm-hmm. Aujourd'hui, cette histoire qu'elle vient de raconter, mm-hmm. ça nous prouve le fait déjà de compter sur ses amis. Mm-hmm. Parce qu'en dernière instance, celui qui a sauvé l'enfant, c'est un ami de la famille.
Mm-hmm. Un génie. Oui. Qui s'est transformé.
Vous ne savez pas où sont vos amitiés. Mm-hmm. Ils peuvent venir n'importe où. C'est ça qui a sauvé cet enfant-là. Mm-hmm. Donc, ce sont des valeurs qu'il faut effectivement avoir dès le bas âge, mm-hmm. pour que l'enfant puisse avoir un chemin, non pas balisé, parce que c'est toujours dangereux de marcher dans la vie, mais il faut savoir compter sur d'autres personnes, mm-hmm. pour vous guider. Mm-hmm. Donc le compte, il est important. Et moi, je souligne le fait qu'on puisse trouver vraiment le moyen de l'insérer comme matière spéciale dans la formation de nos enfants.
Monsieur Soumane Chamsou, en tant qu'enseignant, que préconisez-vous pour terminer par rapport à cette promotion des comptes au Niger? Et quels sont les acteurs qui doivent être impliqués et quels doivent être leurs rôles et responsabilités?
D'accord, merci. Nous l'avons tout au long du débat souligné, mm-hmm. l'importance de l'enseignement des comptes, mm-hmm. à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président Adam Ouidé l'a déjà dit. Il faut placer le compte comme une matière, mm-hmm. non pas comme un enseignement dans une discipline. Parce que nous, aujourd'hui, on considère le compte comme un enseignement dans une discipline. C'est dans l'enseignement du français qu'on fait qu'il y a, dans le programme annuel, une partie réservée au compte. Mm-hmm. Mais on peut déplacer cet enseignement pour le faire en théorie et en pratique. En théorie d'abord, à l'école primaire. Aujourd'hui, c'est ça que même l'école blanche, notre école, c'est comme ça qu'on a commencé, mais avec le conte français. Vous en avez parlé. Mm-hmm. Les fables qu'on nous faisait réciter, les poèmes des mains de l'aube, tout ça, c'est pour que nous ayons à l'esprit les valeurs de leur mouvement culturel. Adamou a déjà fait une sorte de répertoire des ouvrages existants dans le domaine du conte au Niger. Au début, le président vous a énuméré un certain nombre d'écrivains.
Bien sûr.
Donc ça sous-entend que l'outil est là. Mm-hmm. Maintenant, il reste la volonté politique pour l'instituer dans le programme préscolaire. Le préscolaire, c'est ça qu'elles font. Mmh. Les dames, les monitrices passent leur temps à chanter. Mais quel type de chanson? On pouvait initier des contes, préparer des contes pour enfants. Mmh. On pouvait, à partir de là, prendre des conteurs, des conteuses, mmh. qui, à longueur de journée, dans le préscolaire, auront pour tâche seulement de conter, de traduire dans nos langues, mmh. en germain, mmh. en haoussa, en Fulfulde, mmh. en Tamajek, toutes les langues. On fait des regroupements. On regarde quelles sont, dans les groupes, dans les zones, quelles sont les langues dominantes. Ouais. Et pas une seule langue, toutes les langues. Si dans une région, il y a trois langues, il faut que toutes ces langues-là...
On peut avoir au moins en trois langues.
Trois langues.
Un conte.
Un conte. Mmh. Voilà forcément ce qu'il devait faire. et jusqu'à l'école primaire, que l'enfant commence d'abord à comprendre son milieu. Mm-hmm. Comme l'a dit le sociologue, l'enfant est le fruit de son milieu. Ça veut dire que le milieu qui nous a fait, qui nous a créé, mm-hmm. si nous ne comprenons pas ce milieu, nous comprenons le milieu extérieur. Mm-hmm. Comment pourrons-nous gérer ce milieu? Donc, le conte, les acteurs, c'est d'abord, premièrement, l'État. C'est la politique. C'est les ministères qui doivent créer un programme, un curriculum. Mm-hmm. Il faut forcément que les parents soient sensibilisés sur la nécessité d'enseigner le conte. Certains parents vont dire, mais là, il nous met en retard. Mais si les parents eux-mêmes ne voient pas la nécessité d'enseigner le conte, parce qu'il faut, se le dire, il y a des parents qui pensent qu'ils sont civilisés. Mm-hmm. Les valeurs culturelles de l'Europe sont meilleures pour eux au nôtre. Moi, j'ai fait littérature générale comparée. Souvent, quand je parle de littérature africaine, certains élèves me disent, monsieur, mais pourquoi on ne parle pas de la littérature française? J'ai dit, moi j'ai fait littérature générale comparée, je maîtrise la littérature française au même titre que la littérature africaine. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner une culture. Et aujourd'hui, vaut mieux que nous prenions les textes nigériens ou bien plus largement les textes africains que de prendre les textes français. Le conte, c'est l'art. C'est l'art. Et l'art, c'est les fondements d'une culture. C'est un élément de la culture. Donc, on ne peut pas supprimer la culture chez un peuple. Et le conte traditionnel, tel qu'il se faisait, on regroupait les enfants par catégorie d'âge. Il y a des contes qui sont destinés à des enfants 7 ans, 10 ans, 12 ans. Il y a des contes qui sont destinés aux femmes mariées, c'est-à-dire les jeunes femmes, c'est elles qui vont se regrouper. Et les vieux ont leur conte. Donc chaque conte a au moins une cible. Et il faut forcément qu'on fasse la même chose à l'école, faire en sorte que les contes doivent être choisis pour l'école primaire, des contes doivent être choisis pour le collège et des contes pour le lycée. Permettre à ce qu'on recrute au moins dans chaque établissement un conteur ou une conteuse capable de venir de faire des séances de contes et faire des débats autour des contes. C'est-à-dire que nous, on fait déjà l'enseignement du conte, mais on fait seulement la structure du conte, les fonctions du conte, définir les contes, les rôles, faire lire des contes déjà transcrits en français. Donc ça, c'est toujours la promotion de la langue française. Mais si le conte est fait dans la langue, parce que même ceux qui ont transcrit les contes, ils n'ont pas pu transcrire les chansons. Parce qu'il y a quelque chose de sacré dans le conte qu'on ne peut pas transcrire. Le conte là. Certains contes, il y a des gestes qui ne peuvent pas être faits dans le conte écrit. Il y a encore une intonation très importante dans le conte. Et la conteuse prend des voix de l'homme méchant, de l'homme sérieux, de l'enfant pleurnichard. Le conte en tant que tel véhicule de certaines valeurs. Ou bien de la plupart des valeurs de la société.
Ça veut dire que l'État peut choisir, par exemple, une classe du collège ou du lycée où il y aura cette discipline, on va dire, enseignement du conte. C'est ça que vous préconisez?
Oui, ou bien les séances de conte. Séances de conte, ça veut dire amener. Quand on faisait lettres, on se déplaçait chez Djelba Badji pour écouter. Pourtant, on fait épopée. Mais pour faire la pratique, on se déplaçait chez Belja. Chez le griot lui-même, il vient avec sa guitare, il fait et nous écrivons, nous prenons note. Donc c'est la même chose.
Merci beaucoup, Aïcha Lamine Fofana. Un mot pour terminer par rapport à la promotion des contes. Comment faire pour réussir à faire cette bonne promotion des contes au Niger?
En tout cas, pour la promotion, moi vraiment, je tiens à mettre une association culturelle sur pied qui réunit beaucoup de conteurs. Et puis, on va essayer de mettre sur pied un planning où on ira chaque quartier pour animer. Si on arrive dans ce quartier, dans le quartier de Taladji, on fait une nuit de contes. Après, on ira dans le quartier de Bukoti pour animer la deuxième semaine. Mmh. On prend pour chaque quartier une nuit. Mmh. C'est ce que vraiment je tiens à mettre sur pied. Ça a fait que j'ai même écrit une année. Bon, ça a un peu duré. En 2018, au ministre de la Renaissance, j'ai mis en même temps mes éléments sur CD. Il les a vus, il m'a encouragé. Et il m'a dirigé vers un institut où il me disait que d'aller là, ils peuvent essayer de me financer. Mmh. En tout cas, si on a l'appui du gouvernement de ce côté, ça serait très bien pour au moins le déplacement des compteurs, pour qu'on puisse animer et que le compte devienne immortel, quoi.
Merci à vous, Madame Aïcha Lamine Fofana. Pour terminer, Monsieur Adam Ouidé, un mot.
C'est pour encourager, madame. Et de dire qu'il y a deux choses à faire. Il y a déjà à récupérer par transcription les comptes, comme l'ont fait les Boubou Hamal et les Tigui. Il faut les mettre en sûreté, hein, et les développer dans l'enseignement. Voilà ce que moi j'allais dire.
Merci à vous. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème l'importance de l'enseignement des contes aux enfants à l'école. Nous avons compris que les contes sont de tradition orale. Elles étaient très répandues en Afrique. Elles ont plusieurs fonctions. Il s'agit d'abord de divertir, d'instruire, mais aussi de donner des leçons de morale. Nous avons vu qu'il y a des acteurs qui font ce plaidoyer pour que les contes soient connus par tout le monde. Nous avons divers contes donc, qui doivent être promus, puisque comme on eut à l'expliquer nos invités, les contes sont également révélateurs de la culture. Nous étions en compagnie de Monsieur Adam Ouidé. Il est écrivain, auteur de Camisole de paille. Il a écrit récemment un nouveau roman intitulé Camarades. Il est par ailleurs le président de l'association des écrivains nigériens dénommée Société des gens de lettres. Notre deuxième invitée, c'est Aïcha Lamine Fofana. Elle est conteuse. Et enfin, M. Soumane Chamsou, il est enseignant de français et de lettres. Nous disons merci à tous les trois d'avoir accepté de faire le déplacement et d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des 46 radios et 6 télévisions partenaires de Studio Kalangou, grâce auxquels vous nous suivez. Au micro, c'était Michel Dégé pour la modération de ce forum. À la technique, Saint-Nissaka pour le son. À la réalisation vidéo, Mustapha Ayouba. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.